Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont à l'Institut d'Astrophysique et bonsoir aux internautes qui vont suivre cette nouvelle carte blanche. Donc vous savez que le directeur de l'Institut d'Astrophysique présent, n'est pas là maintenant. Il m'a chargé, d'abord de vous souhaiter la bienvenue et d'autre part c'est lui qui a eu l'idée de confier les troisièmes mardis du mois à un binôme. Donc il y a Daniel Kunt qui opère les mois pairs et en ce qui me concerne donc ce sont les mois impairs. Et donc j'annonce avant de présenter Sébastien Maillard qui nous fait le grand honneur de présenter cette carte blanche d'aujourd'hui. J'annonce que le 20 décembre, mon collègue et ami Daniel Kunt organise donc la conférence sera donnée par Sylvestre Huet, qui est un ancien journaliste scientifique, mais qui a un blog et dont le sujet c'est le climat, 30 ans de perdu. Alors ce soir, nous restons dans des domaines un peu analogues, puisqu'on va parler de recherche en Europe et Europe objet de recherche. Et c'est donc Sébastien Maillard, qui est directeur de l'Institut Jacques Delors, qui nous fait l'honneur d'être présent et de nous présenter ce grand sujet, l'Europe espace et objet de recherche. Alors, Sébastien Maillard possède une caractéristique, c'est le fils d'un de nos excellents collègues qui est présent ce soir, donc Jean-Pierre Maillard, qui est donc notre collègue à Daniel et à moi. Donc vous avez une carrière en fait à deux volets. Vous avez été pendant 10 ans journaliste. Vous avez travaillé à La Croix, mais vous travaillez déjà sur des sujets liés à l'Europe, hein, puisque vous avez été correspondant dans différentes villes européennes. Et puis depuis 2017, vous êtes donc directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors cet institut a été créé en 1996 par Jacques Delors comme un endroit où on travaille, où on essaye de réfléchir sur comment faire l'Europe. Et alors donc, cet institut se trouve à Paris. Et puis là, il a deux caractères. Donc c'est à la fois un organisme de réflexion, mais aussi j'ai noté que vous aviez une branche formation, c'est-à-dire vous avez une académie, vous formez, vous allez peut-être nous en dire un petit mot, vous formez donc des gens sur les questions européennes. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole.
Merci beaucoup Jean Douce pour cet accueil, pour ces mots, et merci à vous de me faire l'honneur de me donner carte blanche pour cette soirée. C'est presque un peu intimidant de parler dans ce temps fixe qui est habitué, je pense, à des exposés très savants et avec beaucoup d'équations et de formules qui sera moins l'objet de mon propos. C'est vrai que l'Europe n'est sans doute pas le sujet le plus attendu dans cet amphithéâtre, mais je crois que ce n'est pas non plus le plus incongru, puisque j'ai réfléchi en fait qu'est-ce qu'il y avait comme rapport entre l'Union européenne et l'astrophysique, hormis les quelques étoiles qu'il y a dans les 12 étoiles du drapeau européen, mais je pense qu'on peut trouver d'autres liens, et ce sera l'objet de cette conférence l'Europe, espace et objet de recherche. Mais peut-être effectivement, comme vous m'y invitez, quelques mots sur l'Institut Jacques Delors que je dirige. Je crois qu'on une expression 68 tard, c'est de dire d'où tu parles. Donc d'où je parle, eh bien c'est d'où je parle, c'est de ce think tank, comme on dit en bon français, c'est un laboratoire d'idées. Alors ici, c'est un vrai laboratoire, mais nous, un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un laboratoire d'idées opérationnelles pour faire avancer l'intégration européenne. On pourrait presque parfois appeler ça un lobby d'idées pour l'Europe, non pas d'intérêt, que Jacques Delors, en effet, a créé à son retour de Bruxelles, lorsqu'il est revenu en France après 10 ans à la présidence de la Commission européenne. Tout le monde se souvient qu'il ne s'est pas présenté cette année-là à la présidentielle française, mais on a oublié que, par contre, dans la foulée, il a créé ce qu'il appelait le groupe d'études et de recherche, qui n'avait pas osé appelé par son nom, c'est nous qui l'avons convaincu de l'appeler l'Institut Jacques Delors en 2012, mais au départ, et ça s'appelle toujours aussi Notre Europe. Notre Europe, Institut Jacques Delors, qui a aussi des sœurs à Berlin et à Bruxelles. Si aujourd'hui, il y a apparu une équipe de 20 personnes et plusieurs investis donc, dans des sujets comme la démocratie européenne, l'Europe sociale, l'élargissement, la géopolitique, l'Europe dans le monde, le commerce et l'Europe de l'énergie. Il y a voilà, beaucoup de sujets, bien sûr, que couvre aujourd'hui l'Europe. Mais ce qui est, je précise aussi que c'est un institut indépendant politiquement. Notre conseil d'administration est formé de personnalités, alors certes pro-européennes, ça je pense que notre nom ne s'en cache pas, mais de tendances différentes, et puis de nationalités différentes. Dans mon équipe, j'ai 11 nationalités. On travaille en français, en anglais, mais 11 nationalités européennes différentes. Et notre activité principale, c'est des publications, vous trouvez sur notre site, des événements, des webinaires régulièrement. Et puis, vous l'avez souligné, des formations à destination des 18-30 ans qui n'ont pas fait d'études européennes, mais qui voudraient quelque sorte, qui s'intéressent à la chose européenne comme citoyens européens. Et d'ailleurs, vous y êtes aussi les bienvenus si vous rentrez dans cette tranche d'âge.
L'Europe, c'est un cadre important de la recherche scientifique, et ce sera ma première partie. Mais c'est en elle-même, je dirais en soi, elle mérite aussi la recherche. Et c'est pourquoi j'ai voulu intitulé mes deux parties, l'Europe de la recherche, en première partie, et en deuxième partie, la recherche de l'Europe, pour qu'on comprenne aussi en tant que telle l'Europe comme objet de recherche. Alors, d'abord, l'Europe de la recherche, en fait, là, vous disiez la prochaine conférence est 30 ans pour rien, 30 ans perdus. Là, j'aurais pu dire il y aura moins eu une pas mal d'années de perdues, c'est vrai, avant qu'on ait une Europe de la recherche. C'est en tout cas une lente maturation, puisque si je vous demande à quoi vous associez l'Europe, vous me diriez l'euro, vous me diriez Schengen, vous me diriez Erasmus, vous diriez la politique agricole commune. La recherche n'arrive pas évidemment tout de suite dans le débat. Et pourtant, elle a été présente en fait dès le début, mais vraiment dès le tout début. L'Europe, vous savez, l'Europe au sens de la construction européenne démarre en 1950 avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et déjà, dans cette CECA, il y avait été prévu des activités de recherche, mais là, directement liées au charbon et à l'acier. D'ailleurs, le traité CECA qui est entré en vigueur en 1952 avait été signé pour 50 ans. Et lorsqu'en 2002, il y a eu la mort de la CECA, alors ça n'a pas fait la une des journaux, mais lorsque cette communauté... ça s'est soldé en fait en 2002 par un fonds de recherche qui existe toujours sur le charbon et l'acier. Et puis en 1957, vous savez qu'il y a eu deux traités de Rome. L'un à l'époque le plus connu en fait, c'était le traité créant la communauté européenne de l'énergie atomique, l'Euratom. Et là aussi l'Euratom en fait a prévoyé la création d'un centre européen de recherche sur la fission nucléaire, qui deviendra plus tard le CER, j'en parlerai puisqu'il existe toujours. Donc, il y a eu des débuts dans les deux communautés naissantes des activités de recherche liées à l'objet de leurs activités, mais c'est vrai que le grand traité le plus connu, le traité de Rome qui a créé la CE, la Communauté économique européenne, 1957, lui ne prévoyait absolument rien sur la recherche. Et donc ça a longtemps privé la Commission européenne d'avoir une base légale pour lancer une politique européenne de la recherche au sens donc bruxellois du terme. Mais ça n'a pas empêché que pendant cette même période, je dirais parallèlement, c'est pour ça que je parle de lente maturation, il y a eu des initiatives intergouvernementales assez lourdes qui ont engagé les États par des accords internationaux dans les années 50 et 60-70 et qui a d'abord donné lieu à la création en 1954 du CERN, CER, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, qui siège à Genève, qui a aujourd'hui 23 États membres, dont toujours d'ailleurs le Royaume-Uni, qui est d'ailleurs un des 12 États fondateurs, et qui donc lui, bien sûr, s'intéresse à la physique des particules, on connaît notamment le grand collisionneur depuis 2008. Mais c'est vrai que ça a été, on peut dire, la première grande initiative d'envergure après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'idée est vraiment créée en 1952.
Elle n'a pas été vraiment initiée par...
J'allais y venir, justement. Elle est à l'initiative de chercheurs, mais elle n'est pas européenne au sens de l'Union européenne. Bien sûr, c'est une organisation purement intergouvernementale. Autre initiative de, comme ça, indépendante tout à fait de ce qui se passait à Bruxelles, c'est la création en 1962 de l'ESO, de l'Observatoire austral-européen, avec là aussi plusieurs États européens et effectivement qui ne sont pas membres de l'Union européenne aujourd'hui, comme le Royaume-Uni toujours ou la Suisse, et qui a son site au Chili, que je n'ai pas besoin ici de détailler dans cet institut. Et puis, un peu plus tard, en 1975, a été créée l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui siège à Paris, qui comprend 22 États membres, où on retrouve aussi le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, et qui a, que je n'ai pas besoin non plus ici de vous apprendre ici, mais qui a vraiment été pensée au départ en 1975, en fait. Ça a été le modèle inspirateur, là, c'était Airbus. Airbus a été créé en 65 et on s'est dit qu'il faut faire un peu les mêmes choses comme les États-Unis ont la NASA, on va avoir l'ESA. Mais donc, et comme Jean Douze a tout de suite souligné, ce sont des initiatives où le qualificatif européen n'a pas du tout le même sens juridique et financier que l'européen dans l'Union européenne. Ça n'a d'ailleurs strictement rien à voir et c'est important de le souligner. Alors, il y a d'autres instituts qui existent comme ça, qui sont intergouvernementaux. Je pense aussi à ce qui a été fait à Grenoble avec l'Institut Langevin en 67. Mais donc, dans cette période-là, je dirais, le traité de Rome ne prévoit rien au niveau bruxellois sur la recherche, à part ce que j'ai dit ou cité au départ sur la fission nucléaire ou charbon et l'acier. Mais les dirigeants européens, donc des communautés européennes, ont bien conscience qu'il y a quand même quelque chose qui manque dans l'édifice et qu'il faudrait peut-être commencer à s'intéresser à la chose au niveau communautaire. Et c'est en octobre 1972, il y a donc 50 ans, à Paris, que les chefs d'État et de gouvernement, ce qui était encore l'Europe des six hein, à l'époque, il n'y avait pas encore eu le premier élargissement à neuf, qui posent le principe d'une politique commune, je cite, « promouvoir le développement d'une politique commune dans le domaine scientifique et technologique ». Alors ça, c'est une déclaration politique, il y a des conseils européens régulièrement, et vous savez que ce n'est pas parce qu'il y a une déclaration en conclusion d'un conseil que tout de suite ça donne lieu à des choses, mais ça a semé la petite graine qui fait qu'il y a eu après quelques programmes de recherche sur l'énergie solaire ou sur la télédétection, mais il n'y avait pas encore de vue d'ensemble. On a en fait, dans cette époque-là, pas mal bricolé, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas de base juridique pour agir à ce niveau-là. Mais on voyait bien, encore une fois, la nécessité, et peut-être le premier acte de naissance d'une en dehors de la déclaration un début d'une politique européenne de la recherche, c'est en 1983 avec la création du premier programme cadre de recherche et développement, ce qu'on appelle dans le jargon, pour savoir, le PCRD, qui a été créé pour 4 années, de 84 à 87. Il était doté à l'époque donc de 3,75 milliards d'euros. Et ça se voulait, et ça se veut toujours, puisque j'en parlerai de la suite aujourd'hui, un instrument stratégique de soutien à la coopération entre monde académique et industrie, en fait, entre les universités, les organismes de recherche et les entreprises. Mais ça a été fait un peu, on a essayé de trouver des bouts de budget ici et là, il n'y avait pas vraiment de base juridique très ferme. Donc, en pratique, ce sont des subventions européennes qui sont accordées en cofinancement à des projets qui associent des labos et des entreprises sur des appels d'offres européens. Et le but, là, c'est d'avoir d'être que l'Europe joue le rôle de facilitateur, de levier. Et peut-être le programme européen le plus abouti à l'époque qui a pu marquer, c'est le programme ESPRIT, programme sur les technologies de l'information, qui a après aidé à développer des standards et des normes informatiques internationales. Il y en a eu un autre aussi sur les télécommunications. Donc ça, c'est vraiment une initiative au niveau européen, au sens bruxellois du terme, j'y reviendrai dans ma deuxième partie. C'est aussi dans cette même époque-là, dans les années 80, 85, que démarre le projet ITER, sur la fusion nucléaire, qui est toujours en cours, on sait, à Cadarache, et qui vise l'horizon 2035 pour qu'on en voit l'effet de la combustion des plasmas et ce que ça donne. La France, qui est tantôt agit avec Bruxelles, tantôt aime bien agir sans Bruxelles, développe aussi à l'époque son propre projet et qui essaie de convaincre l'Allemagne de venir avec elle là-dedans, qui s'appelle Eureka, pour là aussi aider les entreprises à soutenir la recherche. Mais c'est avec Jacques Delors et avec l'acte unique de 1986 que est vraiment posée la première base légale européenne pour une politique européenne de recherche, mais recherche au sens, à l'époque quand même, recherche et développement. Et la consécration sera qu'on prévoit du coup dans ce traité que le programme cadre dont je parlais devient maintenant, est inscrit dans, je dirais, dans le marbre légal. Et après, 10 ans plus tard, en 1997, avec le traité d'Amsterdam, donc vous savez que l'Union européenne est faite de traités successifs, que non seulement ce programme cadre, avant il devait être adopté à l'unanimité, ce qui est toujours très compliqué au niveau européen, là on peut maintenant l'adopter à partir du traité d'Amsterdam à la majorité qualifiée. Et la recherche est maintenant placée parmi les objectifs de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il y a une lente montée en grade, je dirais, depuis la déclaration 72, le PCRD de 84 qui suit, et je dirais, la consécration juridique où c'est inscrit dans les traités, c'est comme, je dirais, comme si on mettait ça dans la Constitution. Et ça, donc, c'est vraiment cette lente maturation, vous voyez, qui couvre finalement 50 ans. C'est comme ça que ça a été assez lent. Et c'est vraiment, je dirais, quand on change de siècle que les choses commencent à prendre une autre relief. Mais déjà, dans Jacques Delors, vous savez, avant de quitter Bruxelles, a fait ce livre blanc en 1993, qui veut préparer l'Europe à entrer dans le XXIe siècle, qui reste, je trouve, toujours intéressant à lire et d'actualité. Et ce livre blanc de 1993 préconisait, je cite, de créer un espace européen de la recherche et du développement technologique, et qui partait du constat, je cite, d'un paradoxe européen qui fait que l'Union est un peu pénalisée dans la compétition internationale, puisqu'elle a sa capacité comparativement limitée de transformer les percées scientifiques et les réalisations technologiques en réussite industrielle et commerciale, par rapport à ce que savent faire les Américains, qui restent toujours un peu la référence. Et ce livre blanc préconisait que 3% du PIB de l'Europe soit dédié à la recherche et développement. C'était avec en arrière-plan ce qu'on appelait à l'époque la société de l'information, mais l'idée qui, après, sera reprise sous l'expression d'économie de la connaissance, c'est de dire que l'économie, en fait, est fondée sur le savoir, et qu'il faut donc soutenir ce savoir. Et la commissaire européenne à l'époque, qui sera Edith Cresson, qui n'est pas resté très longtemps, son successeur Philippe Busquin, reprendra cette politique qui va vraiment en fait être là aussi adoptée au plus haut niveau politique, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, à Lisbonne en l'an 2000, ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne, qui, alors c'est tout, ça paraît maintenant, aujourd'hui, ça fait sourire parce qu'à l'époque on y croyait, mais c'était de faire l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde d'ici à 2010. Et avec l'objectif en 2000 d'arriver à 3% du PIB consacré à la recherche en 2010. On n'y est pas encore aujourd'hui. Et donc, ça veut surtout, ce qui est important, c'est que la recherche devient vraiment une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. La Commission est là pour établir des orientations, des indicateurs, des échanges de meilleures pratiques, la surveillance, l'évaluation périodique. Et c'est ce que fait aujourd'hui la commissaire européenne à la recherche, qui est actuellement la Bulgare Maria Gabriel. Et c'est donc dans le traité de Lisbonne de 2007. Vous savez, ce traité qui est très mal aimé en France parce qu'il il a succédé à ce qui avait été rejeté comme la Constitution européenne de 2005. Mais n'empêche que c'est dans ce traité qu'on écrit noir sur blanc qu'on veut réaliser un espace européen de la recherche. Mais il faut dire, à l'époque, c'est sous la commission Barroso, très très libérale, on pense espace européen de la recherche, on le pense en marché européen de la recherche, adossé au marché intérieur, c'est-à-dire un espace où les chercheurs, les connaissances scientifiques et technologiques peuvent circuler librement. Et c'est à l'époque, la recherche, c'est intéressant, est mis, le commissaire européen à la recherche, il est à la recherche et à l'industrie et à la compétitivité. On ne met pas du tout avec l'éducation ou avec la formation, on le met avec l'industrie. Et donc c'est dans cette optique-là qu'est pensée la recherche. Aujourd'hui c'est différent, mais, et d'ailleurs l'objectif de 3% de financement pour la recherche et développement doit être fait avec 2/3 venant du privé. Donc c'est ça, je dirais, l'idée qu'il y a. Les principaux acteurs de cet espace économique européen, de l'espace européen de la recherche, excusez-moi du lapsus, c'est que les entreprises doivent soutenir la recherche et le développement. Et c'est un peu la vision à l'époque, du chercheur-entrepreneur. Un chercheur-entrepreneur qui a le goût du résultat, qui aime la prise de risque, qui a une culture de performance, de benchmark, de compétition et d'utilité à l'économie. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'est fait cet espace européen de la recherche à l'époque. Et d'ailleurs, ça va parallèlement à cet effort d'unifier le brevet européen pour les garantir la propriété intellectuelle des découvertes scientifiques qu'on peut faire. Mais je dirais que avec la fin des années Barroso et le début d'autres, un rééquilibrage peut-être idéologique au sein de la Commission, on se met un peu à revoir les choses autrement et avoir aussi l'intérêt d'avoir un financement européen de la recherche fondamentale. Et c'est ainsi que le PRCD évolue, puisqu'avant il était vraiment uniquement dédié à la recherche appliquée, pré-compétitive. Alors, si on c'est ce que j'expliquais par la création de cet espace européen de la recherche, si on regarde aujourd'hui quels sont un peu les organes et les financements qu'on a, je dis au niveau vraiment européen. Je vous disais d'abord, il y a ce centre commun de recherche, en anglais Joint Research Center, qui a été créé, je l'ai dit, avec l'Euratom. Et dans les années 70, on a enlevé le nucléaire, au départ c'était le centre de recherche nucléaire, après il est devenu, je dirais, général, de même que la communauté économique européenne est devenue la communauté européenne, c'est devenu le centre commun de recherche. Donc c'est vraiment l'organe maison, il est 100% à la Commission européenne, il y a 3000 employés, ce sont des fonctionnaires de la Commission européenne, ils ont 8 sites, dont le principal est près du lac majeur en Italie, à Ispra, et j'y suis allé d'ailleurs voir leurs installations, puisqu'il s'agit en fait pour la Commission, lorsqu'elle fait des politiques sur les pots d'échappement, sur toutes les normes scientifiques parfois qui peuvent être au niveau européen, elle a besoin de faire des tests en toute indépendance, et donc des tests maison, et c'est pour ça qu'elle s'est dotée de ses propres labos de recherche, qui appartiennent entièrement 100% à la Commission européenne, des gens de toutes nationalités y travaillent, mais qui travaillent, pour éviter les lobbies, travaillent vraiment dans leurs résultats exclusivement à la Commission européenne pour l'éclairer son travail de recherche, dans ce travail de préparation des normes. C'est doté de 2 milliards d'euros. Il y a 8 établissements, je vous l'ai dit, mais donc pas en France, mais ils sont dispatchés ailleurs en Europe. Et puis, il y a, ce qui est important à savoir, et je pense que vous le connaissez ici, le Conseil européen de la recherche, le ERC en anglais, qui lui a été créé donc en 2007, donc il y a 15 ans, qui est présidé aujourd'hui par une biologiste allemande du nom de Maria Leptin, et qui a été présidé auparavant par un mathématicien français, Jean-Pierre Bourguignon, et qui est là pour sélectionner des bourses directement à des chercheurs individuels, je dirais sans priorité déterminée, c'est vraiment ce qu'on appelle du bottom-up, sans que la recherche soit liée à une application. Je dirais que c'est un programme scientifique blanc, et on voudrait, là il a carte blanche. Ils sont plutôt fiers, lorsqu'ils font le bilan au bout de 15 ans, de dire que parmi les bourses qu'ils ont données aux chercheurs, 9 d'entre eux figurent parmi les Nobel, 4 médailles Fields. Et on a d'ailleurs, ça a été dit au moment de la crise du Covid, que le chercheur allemand qui est notamment à l'origine du vaccin de l'ARN messager développé par Pfizer Biotech était un oncologue allemand d'origine turque qui avait un financement, justement, qui avait pu faire ses recherches avec ce financement européen. Ils ont un budget annuel de 2,3 milliards d'euros. Mais vraiment, l'objectif, et c'est pour ça que je suis heureux d'en parler ici, d'insister là-dessus, c'est que c'est la recherche exploratoire et fondamentale qui est uniquement motivée par la curiosité et dans toute discipline, dans les sciences dures comme les sciences les plus molles. Il y a différentes catégories de bourses selon le niveau d'avancement de la recherche. Ça commence à 2 ans en post-doc. Et les bourses peuvent aller jusqu'à 3,5 millions d'euros sur 5 ans. Donc c'est très convoité, c'est ultra sélectif. La nationalité ne compte pas, mais il faut être établi dans l'Union européenne. Et donc le but, bien sûr, c'est d'attirer aussi des chercheurs à venir s'établir en Europe. Très heureux.
Voilà. Non, mais d'accord. Notre collègue Jean-Cy.
Mais parce que l'objectif, effectivement, c'est de fixer en Europe l'excellence scientifique. Et donc le siège de cette
ce conseil est à Bruxelles et qui a son agence exécutive. Donc ça, c'est pour les organes clés. Après, le financement, c'est, j'ai parlé du premier programme cadre qui a été créé en 84. Après, il y a un deuxième, un troisième, c'est des programmes sur plusieurs annuels. Maintenant, on en est au neuvième, qui s'appelle Horizon Europe. Horizon Europe, ce qui a succédé à Horizon 2020, et qui donc là finance la recherche sur 2021-2027, il est doté, tenez-vous bien, de 95,5 milliards d'euros. On est presque à 100 milliards d'euros sur la période 2021-2027. C'est considéré aujourd'hui le plus important programme public de recherche au monde, budgétairement. Et il est de l'Union européenne, du budget européen. Et vous le voyez là-dessus, vous voyez donc le European Research Council dont je parlais est dans un des premiers piliers. En fait, ce premier pilier, il représente 27% de l'enveloppe. Hein, il est doté de 25 milliards d'euros sur la période. Le deuxième pilier, qui comprend tout ce qui est lié à des... Donc là, le premier pilier, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Le deuxième, c'est la recherche plus appliquée en matière de alimentation, de santé, bioéconomie, mais aussi pour des parties de ce qui concerne des applications liées à l'espace. Et le centre commun de recherche aussi dont je parlais, qui appartient à la Commission européenne, a son budget aussi là-dedans. C'est aussi ce programme Horizon Europe qui finance la mobilité des chercheurs, hein, ce qu'on appelle aussi les actions Marie Curie, et des infrastructures de recherche. Et ce sont des financements qui vont de 60 à 100% des coûts éligibles qui sont directement budgétés, et même aussi une prise en charge à 25% des frais administratifs liés. Donc c'est un gros morceau. Vous voyez que je vous avais expliqué qu'au tout début, on était à l'ordre de 3 milliards. Là, on est arrivé donc à 100 milliards. C'est déjà une augmentation de 30% du budget par rapport à la période d'avant. Bien sûr, le Parlement européen voulait beaucoup plus. Ce sont les députés européens qui votent ça, hein, les conseils. Mais il y avait il y a des arbitrages à faire, mais n'empêche, on est presque arrivé aux 100 milliards. Et puis, poursuivre sur ce tableau des différents organes et financements, je dirais dans les dernières créations, on s'est penché davantage après sur la recherche et l'innovation, avec la création en 2010 de ce qu'on appelle l'Institut européen d'innovation et technologie, qui lui siège à Budapest, qui se voulait, on prend toujours une référence américaine, ça se voulait le MIT européen. Il est doté d'un budget de 2,7 milliards. Et son ambition aussi, c'est vraiment d'aller de soutenir les domaines de pointe et d'innovation, que ce soit aussi, là aussi sur le climat, l'alimentation, la santé, le numérique, l'énergie. Et il a donc son budget aussi dans le programme Horizon Europe. Et depuis mars 2021, donc vous voyez, c'est tout récent, existe un Conseil européen de l'innovation. Donc il y a un Conseil européen de la recherche et un Conseil européen de l'innovation qui, lui, dispose de 10 milliards d'euros sur 2021-2027 et qui est là pour apporter du capital au financement de start-up pour soutenir l'innovation de rupture qui sont à l'origine des technologies de pointe les plus récentes et qui peuvent parfois être créatrices d'un nouveau marché et pour là aussi que ça émerge et que ça reste en Europe et non pas sur la Silicon Valley. Et là, pourquoi l'échelon européen est pertinent? Parce que ça permet de partager le risque et d'assumer de nombreux échecs, et plus qu'un seul pays pourrait le faire seul, mais aussi d'attirer une masse de propositions diverses, puisqu'on sait que dans l'innovation, il faut une quantité initiale, c'est un organe clé, pour avoir en fait, celle qui peut-être percera. Et donc, ce Conseil européen d'innovation a été un peu pensé sur le modèle américain qui existe pour les projets avancés de défense, la DARPA. Mais donc voilà, vous avez maintenant, si on fait le mapping, il y a le programme Horizon Europe qui est devenu un programme substantiel. C'est comme le troisième poste budgétaire européen, après l'agriculture, après les fonds de cohésion. Mais n'empêche que c'est quand même, aujourd'hui, ils sont dans la cour des grands, alors qu'on partait de très bas. Et maintenant, avec doté de ces différentes structures et outils. Alors, qu'est-ce qui peut être quelques éléments de bilan politique, même si encore vous voyez que c'est des choses encore finalement assez récentes. C'est vrai que l'objectif d'un espace unique européen de la recherche, c'est d'éviter que l'effort de recherche européen ne soit que l'addition de 27 efforts nationaux, d'éviter des fragmentations, des doublons, des cloisonnements, d'isolement, des les disparités qui inévitablement se font et comme on voit par exemple, si on parlait d'ordre de la défense, on est clairement ça, on a plein d'armées différentes, mais pas, si on additionne tous, on aurait beaucoup plus de soldats qu'aux États-Unis, mais on est voilà, dans beaucoup de doublons. Donc ici, le but, c'est la coopération, la coordination, une allocation plus optimale des ressources, aussi une émulation entre labos et d'avancer plus unis dans la compétition internationale. Pourquoi ça marche et pourquoi ça marche plus ou moins à ce stade? D'abord, il y a bien sûr toujours des réticences nationales à agir à l'échelon européen, qu'on observe, je dirais, dans toute politique européenne presque, et les États qui sont souvent attachés à une mécanique distributive, c'est-à-dire qu'ils veulent ce qu'on appelle la logique du juste retour, c'est-à-dire que si j'ai mis tant dans le programme, j'en veux tant chez moi, même si on n'est pas forcément toujours, c'est pas forcément l'allocation la plus optimale. Et puis, autre raison, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne est tellement elle-même investie à gérer ce lourd programme Horizon Europe et à les organes que j'ai décrits, qu'elle en fait elle-même assez peu investie dans la coordination entre les gouvernements nationaux. Donc effectivement, on a des problèmes, je dirais, de synergie entre les programmes européens et les programmes nationaux, et je suis sûr que parfois vous en faites vous-même l'expérience aussi dans vos recherches de financement. Donc il y a des problèmes de gouvernance interne. Par contre, beaucoup signalent qu'il y a eu, et peut-être vous ne serez pas d'accord, mais manifestement il y a eu une amélioration, une simplification des procédures des charges administratives liées aux demandes de financement européen. La Commission calcule que le délai d'octroi des subventions européennes pour les chercheurs a été raccourci de 110 jours entre un programme cadre et un autre, et même la Cour des comptes européenne a salué cet effort. Donc, manifestement, si vous trouvez que c'est compliqué, dites-vous que c'était beaucoup plus compliqué encore avant. Mais il y a un problème aussi interne à l'Union européenne, c'est que cet espace européen de recherche, il est déséquilibré. Vous le voyez ici dans cette autre diapo. Autant on a une bonne, aujourd'hui, répartition entre les différentes disciplines, parce qu'au départ, certaines sont très habituées au feu européen, certaines pas du tout et n'en demandent pas. Et maintenant, entre les différentes disciplines scientifiques, c'est mieux distribué. Mais on voit bien qu'on a un problème Est-Ouest. Il y a effectivement l'idée de ne pas forcément répartir équitablement, c'est assumer, de ne pas répartir équitablement entre les pays. Je cite la présidente du Conseil européen de la recherche, Marie-Étienne, dans un article de cette année. Les solutions peuvent venir d'endroits inattendus. La science progresse sur un large front. Les nouvelles découvertes dans un domaine peuvent ouvrir de nouvelles possibilités dans d'autres domaines. Mettre toutes nos ressources dans certains domaines prioritaires peut donc nuire à nos chances de progresser, même paradoxalement dans ces domaines prioritaires. La recherche ne doit donc pas être limitée par un objectif axé sur la réalisation des priorités politiques actuelles, mais doit avoir la liberté de suivre des voies prometteuses où qu'elles apparaissent. En pratique, il y a 6 pays qui accaparent le projet Horizon Europe. La France est bien placée. En tout cas, j'ai les chiffres pour le précédent programme, celui qui s'est terminé en 2020, il y avait 6 pays qui avaient 60% du programme. Et ça se voit d'ailleurs, si vous regardez la composition du Conseil européen de la recherche, je dirais, il est très Europe de l'Ouest, c'est peu à l'Est. Et c'est vrai que ça reflète mais, disons, des disparités plus larges qu'il y a entre les niveaux de vie entre Est et Ouest. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça? J'ai dit que l'idée, ce n'est pas de forcément faire un saupoudrage et de donner tout d'un coup beaucoup plus de fonds à la Bulgarie ou à la Lettonie, je dis que c'est pays au hasard, mais de favoriser, de créer des synergies avec d'autres fonds européens de cohésion pour que ces pays puissent moderniser leur structure de recherche, favoriser aussi des jumelages, des échanges. Mais la logique de l'Union européenne, c'est de tirer vers l'excellence, si j'ose prendre l'expression de premier de cordée, plutôt que d'avoir une logique redistributive pure entre les 27. Et vous voyez que dans cet effort d'atteindre les 3% de R&D en Union européenne, oui, on voit bien les pays qui sont plus ou moins avancés. Un autre élément de bilan auquel la Commission européenne est attentive, c'est est-ce qu'il y a un certain équilibre homme-femme dans la façon dont l'argent européen est distribué pour la recherche. C'est vrai que l'espace européen de recherche reste assez masculin. Vous avez une commissaire à la recherche, une présidente et même une directrice du Conseil européen de la recherche. Mais globalement, les femmes sont sous-représentées dans la recherche européenne, même si aujourd'hui, le Conseil européen de la recherche est fier de dire que 43% de les bourses qui donnent des starting grants, qui sont vraiment des bourses de démarrage, vont à des femmes et que c'est en progression. Mais le dernier élément interne à ce bilan, c'est qu'en fait, l'effort financier, même s'il est soutenu, il est au moins, il reste insuffisant, puisque l'ERC, en fait, ne satisfait que 12% de ses demandes. Et Jean-Pierre Bourguignon lui-même qui doit renoncer à des tas de projets qui sont vraiment excellents. Il y en a 500 par an, d'après lui, qui sont tout à fait au niveau, mais qui ne peuvent pas simplement financer. Donc on a vraiment une demande pour des financements du programme cadre qui est bien supérieure à ce que l'offre peut faire, même malgré ces promesses-là. Mais je dirais, je serais incomplet dans le bilan si le bilan n'est pas seulement interne à l'Europe, mais il est aussi externe dans notre compétition scientifique mondiale. L'Europe, en 2018, produisait 21% du total des publications scientifiques contre 17% aux États-Unis. On peut dire qu'on publie plus. Mais sans être dans le haut des publications les plus influentes parmi celles qui sont les plus citées. Et puis surtout, dans la période que je décris, depuis les années 2000, on n'est plus tout seul, c'est qu'un nouvel acteur s'est vraiment invité dans la recherche, c'est la Chine. La Chine s'est imposée comme un nouvel espace de recherche en ce siècle. Elle dépasse l'Union européenne dans le top 1% des publications les plus citées depuis 2016-2017. Si on regarde aujourd'hui les dépenses, si on fait le palmarès des dépenses consacrées à la recherche dans l'absolu, en 2020, en tout cas les chiffres, c'était 657 milliards de dollars aux États-Unis, 526 pour la Chine et 440 pour l'Union européenne. Donc, malgré tous ces efforts qui ne peuvent être que collectifs, on est là. On est en globalement, aujourd'hui, au niveau européen, on a 2,2% du PIB qui est consacré à la recherche et développement, 2,4% du PIB pour la Chine et 3,45% pour les États-Unis. Un des plus élevés, c'est Israël, avec plus de 5%. Mais l'UE, encore une fois, est en nette progression, puisque là, je vous donne les chiffres 2020. En 2006, c'était 1,76. En 2016, c'était 2,2. Maintenant, je vous dis, on est 2,2. Donc, on est sur une tendance haussière. Mais on voit bien que l'enjeu pour l'Europe à faire tout ça, c'est bien sûr d'affirmer son autonomie dans cette recherche. Et je voudrais, avant de passer à ma deuxième partie, citer juste deux réalisations assez emblématiques qu'a fait l'Union européenne en coopération avec l'ESA, depuis 2000, qui ne sont pas en tant que telles de la recherche, mais qui sont des supports à la recherche. Le premier, que je pense est bien connu ici, c'est Copernicus, qui est une coopération entre l'ESA pour le volet spatial, donc avec cette constellation de satellites, et ce qu'on appelle maintenant l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, ESPA, qui est donc une agence de la Commission européenne, pour le développement d'applications pour en fait rendre ces données utilisables. Et on a vu d'ailleurs cet été, pour la sécheresse en France, pour les feux de forêt, pour la régulation de la fleuve, on fait appel aux images offertes par Copernicus. Et c'est donc là aussi un financement européen qui permet de réaliser cela. Et puis un autre exemple de coopération Union européenne-ESA, mais donc emblématique de ce qu'on a pu faire, c'est Galileo. Galileo, ce qu'on appelle le GPS européen, mais moi je l'appelle Galileo parce que il est mieux que le GPS, il est opérationnel, vous savez, depuis 2016, il est civil, il n'est pas militaire, mais il est plus précis en localisation et plus rapide. C'est un projet, vous savez, qui remonte à 1999, qui a été donc développé avec l'ESA, mais dont le déploiement, au départ, on comptait beaucoup sur le privé, et finalement, ça a pris du retard, et c'est le budget européen qui a pris ça à son compte pour le financer. C'est une constellation aujourd'hui de 26 satellites qui sont placés à 23 000 km en orbite, lancés depuis. Les premiers satellites ont été lançés en 2011 depuis la base de Kourou, des satellites construits par Thales, par Airbus, et avec des stations de contrôle en sol. Alors, au départ, les États-Unis, bien sûr, étaient très contre, mais en 2004, ils ont accepté de rendre ça interopérable avec le GPS. Même avec aussi l'équivalent russe GLONASS et le chinois Beidou. Et apparemment, on dit qu'il y a 870 modèles de téléphones portables et de tablettes qui sont aujourd'hui compatible avec cela. Donc peut-être que quand vous pensez utiliser GPS, en fait, vous êtes sur Galileo. Mais on voit bien que c'est un objectif d'indépendance technologique. Et on sait que ça a beaucoup d'avenir aussi pour les futurs véhicules autonomes ou pour des objets connectés. Et c'est un très gros projet qui est doté donc de 8 milliards d'euros pour 2021-2027. Mais si je cite ces exemples emblématiques d'Europe qui arrive à un certain degré d'indépendance et d'autonomie pour cela, et aussi d'excellence, s'il convient de s'interroger, en fait, dans quel sens européen on fait ça ? Quelle est, en fait, je vous ai parlé de la place de l'Europe de la recherche par rapport au reste du monde, mais ça ouvre la réflexion, et j'en arrive à ma deuxième partie. De quelle Europe parle-t-on ? En fait, est-ce que l'Europe, c'est finalement juste un échelon pertinent, ou est-ce que cet échelon a une valeur en soi ? Est-ce que l'Europe, c'est juste pour vous un tiroir-caisse qui va nous donner du financement ? Et voilà, c'est européen, et bah, tant mieux, mais ça pourrait être chose. Et en fait, au service de quelle Europe est cet espace de recherche ? De quelle Europe l'espace de recherche est-il le nom ? Et c'est pour ça que l'Europe aussi suscite en fait sa propre recherche, et c'est un objet de curiosité. Je vous parlais de ce qui avait été fait en 72 avec cette déclaration de « on va faire une politique commune scientifique ». La même année, les CIS ont aussi créé un institut universitaire européen à Florence, qui est basé à Florence, où j'ai pu aussi aller, dont l'objet est vraiment des recherches sur les questions européennes, et aussi qui abrite toutes les archives historiques de l'Union européenne. Alors pourquoi, vous allez me dire, l'Europe est-il un objet si mystérieux ? Il y a plusieurs définitions possibles de l'Europe. D'abord, peut-être, le plus évident, parce que là, depuis le début, je vous parle de l'Europe sous un angle plutôt institutionnel. Mais l'Europe, c'est d'abord, bien sûr, un continent. Et vous voyez cette belle image du continent européen. On sait que le nom est grec au départ. C'était le nom d'une nymphe, avec ce mythe de l'enlèvement. Étymologiquement, c'est un terme qui signifie le soir, là où le soleil se couche. Et au départ, chez les Grecs, en tous les cas, quand le mot apparaît, au 8e siècle avant notre ère, c'est d'abord pour désigner la partie continentale au-dessus du Péloponnèse, en dehors des îles de l'Asie mineure. C'est donc cette partie-là. Mais à l'époque, bien sûr, les Grecs ne connaissent pas encore le reste du monde, mais ils appellent ça Europe. Et puis, il faudra bien sûr du temps pour connaître et explorer le reste du continent. Si j'avance très vite et je saute à travers des siècles, pendant tout le Moyen-Âge, après l'Antiquité, l'Europe, c'est plutôt à l'époque synonyme de chrétienté. Et c'est vraiment l'Europe de Charlemagne, carolingienne, et les mots sont assez souvent utilisés de manière presque synonyme. Mais la notion scientifique, je dirais, émerge au XVIe siècle avec les navigateurs et vraiment la définition plus géographique du continent Europe, mais avec toujours un flou dans sa limite vers l'Asie. Longtemps, en fait, on plaçait l'Europe, on ne disait pas l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, on disait l'Europe jusqu'à la Volga. Et puis, c'est au XIXe qu'on a mis plutôt vers l'Oural. Et il y a toujours un débat entre géographes, je ne suis pas géographe, mais je comprends qu'ils débattent toujours sur est-ce que le Caucase, c'est dans l'Europe ou ce n'est pas dans l'Europe. Et est-ce que, donc, mais je dis ça parce que ce sont en fait des débats qui rejoignent quelque part aussi les questions quand on élargit l'Europe, est-ce qu'on demande est-ce que cet État est européen ou non ? Puisque, petite incise, lorsqu'on veut être dans l'Union européenne, lorsqu'on candidate pour être État membre, le premier critère qui est dans le traité, c'est être un État européen. Alors, il y a des cas aussi flagrants, quand le Maroc a été candidat en 86, on a dit « Désolé, mais vous n'êtes pas européen, donc on peut pas, ça ne rentre pas dans le traité. » Donc, voilà. Pour la Turquie, on a accepté sa candidature. Effectivement, 3% de son territoire, géographiquement, la Thrace orientale, est en Europe. Mais on voit bien que la question se pose pour la Géorgie. Vous savez que la Géorgie fait acte candidature. Sa candidature n'a pas été acceptée. Et donc, il y a tout un débat. Mais si on va à la Géorgie, alors dans ce cas, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, et c'était en fait un peu le débat qu'il y avait lorsqu'il y a eu ce sommet de Prague le mois dernier. Finalement, jusqu'où on invite, jusqu'où on est européen. Donc, il y a finalement, la définition continentale du continent est bien sûr sujette à débat et à discussion. Certains disent que l'Europe est à peine un continent, puisque vous connaissez cette formule de Paul Valéry qui disait que c'est en fait un petit cap du continent asiatique.
Tika, on voit peut-être une caractéristique majeure de ce continent par rapport aux autres, vous avez, je pense, la map monde en tête, c'est que c'est sans doute le plus maritime. Regardez que vous voyez à l'écran, partout où nous sommes en Europe, on n'est jamais loin de la mer. Donc, soit la mer Baltique, la mer, mer Adriatique, la mer Noire, la mer du Nord. À part la Hongrie qui est vraiment la plus éloignée des mers, sinon on n'est jamais très loin, ce qui est une particularité des autres. Mais là, je parle de géographie, bien sûr, on pourrait aborder l'Europe sous un angle plus historique. Et c'est bien sûr avec l'apparition des frontières, l'éveil des nationalités, que l'Europe, là on la voit comme un tout physique, et bien sûr, est beaucoup plus morcelée. Et le travail aujourd'hui des historiens, et que soutient d'ailleurs le Conseil d'Europe, c'est de voir jusqu'à quel point on a parfois nationalisé l'histoire a posteriori. On a parfois... lorsque vous allez en Italie, on va vous expliquer que Christophe Colomb est bien sûr italien. Si tant est que ce mot a un sens à l'époque, il est génois, mais lorsque vous allez à Barcelone, eh bien on vous dit que non, Christophe Colomb, il est vraiment, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce que nous étions là. Et je pourrais multiplier les exemples. Lorsque j'étais correspondant à Bruxelles, j'étais rentré au Parlement belge, où il y a un grand portrait en pied de Charlemagne dans la Chambre des députés belges, puisque c'est le premier des Belges. Il serait né, parce qu'on ne sait pas très bien où il est né, il serait né près de Liège, et donc c'est le premier des Belges. Alors que moi, en tant qu'écolier français, j'avais appris qu'il était français. Et puis bien sûr, quand vous allez en Italie, on dit que c'est le roi des Lombards, et il a été couronné à Rome. Et lorsque vous allez avec sa chapelle, on vous dit qu'il est allemand. Donc on voit bien que ces notions, en fait, n'ont pas de sens. Et qu'on a beaucoup d'anachronismes lorsqu'on nationalise a posteriori des choses. Et pareil, on pourrait dire pareil pour Léonard de Vinci, qui est certes de Vinci en Toscane, mais qui a fait quand même beaucoup de sa carrière en France. Et donc, il ne s'agit pas non plus de tout européaniser à outrance, qui n'aurait pas de sens, mais d'avoir là, aujourd'hui, le regard le plus dénationalisé idéologiquement de notre compréhension de l'Europe. Mais ça montre bien que le terme européen est aussi toujours géographiquement, historiquement, sujet à débat et à recherche. Dans la deuxième définition, et celle peut-être qui nous occupe le plus à l'Institut Jacques Delors, c'est ce que j'appelle, ce qui n'est pas le mot le plus heureux, l'Europe bruxelloise, c'est-à-dire autrement dit l'Union européenne. Et pourquoi là aussi c'est un mystère? Parce que j'aime beaucoup cette expression de Jacques Delors et j'aime bien la dire ici, il disait que l'Union européenne c'est un OPNI, un objet politique non identifié. Et c'est vrai que c'est une catégorie un peu à part. Alors, vous êtes parfois amené dans vos recherches à essayer de classer des éléments, à voir où on va le mettre celui-là. Qu'est-ce que c'est cette drôle de planète? Et on n'a pas de catégorie. Ben, l'Union européenne, il y a d'autres images. Pascal Lamy, lui, a une autre approche. Il dit, et j'en parle ici aussi dans l'Institut d'astrophysique, on dit que l'État, ça se rapproche du solide et que une organisation internationale type ONU, OCDE, c'est gazeux, l'Union européenne serait liquide, pour vous donner un peu là où on se situe. Mais tout ça, bien sûr, c'est des projections, des métaphores qui ont leurs limites. En fait, l'Union européenne, c'est l'Union européenne, c'est une catégorie, je dirais, hybride, sui generis, mais c'est une matière qui, en sciences politiques, n'avait encore jamais été rencontrée jusque-là. C'est un objet assez curieux, parce qu'un État, c'est défini par un territoire, par une population, par un pouvoir qui exerce sa puissance. On parle de souveraineté nationale. L'Union européenne n'a pas de territoire prédéfini. Vous savez, vous-même, je l'ai rappelé qu'elle a été d'abord à 6, ensuite à 9, à 10, à 12, à 15, à 25, à 27, à 28, maintenant à nouveau à 27, peut-être demain à plus, on parle d'Europe à 36, donc il n'y a pas de territoire défini. Il n'y a pas non plus de peuple européen au singulier. Si vous voulez, on pourra en parler dans la question, mais c'est une notion qui n'est pas toujours admise, en tout cas pas qui ne va pas de soi. Et puis, l'Union européenne n'a pas non plus, ce qui est peut-être la définition la plus politique de la souveraineté, qui est être souverain, c'est avoir la compétence de sa compétence. Or, l'Union européenne ne peut pas s'auto-octroyer des compétences, elle a des compétences que les États veulent bien lui transmettre dans des traités. Mais pourquoi ce n'est pas non plus une organisation internationale classique, au même titre que l'Union postale ou que, je citais l'OCDE ou j'en pourrais citer bien d'autres. Pourquoi quand un État part comme au moment du Brexit, ça crée des tels déchirements? Vous ne voyez pas ça lorsque la Russie a quitté le Conseil de l'Europe récemment. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais en tout cas, ce n'est pas forcément, ça ne fait pas autant à une des journaux que lorsqu'un État membre est sorti de l'Union européenne. On voit bien qu'on n'est pas sur quelque chose de tout à fait sur une organisation internationale classique, parce qu'effectivement, elle a reçu des compétences, un vrai transfert, mais un transfert voulu, choisi, pas un transfert obligé, un transfert assumé de compétences au niveau européen. Donc c'est une Union européenne, en fait, elle a des caractéristiques fédérales. La Banque centrale européenne, elle est fédérale, de fait. Elle est, et on pourrait parler des compétences. Il y a des domaines où l'Union européenne agit en exclusivité. Lorsqu'elle négocie des accords de libre-échange avec tel ou tel pays, elle négocie, le commissaire européen au commerce le négocie au nom des 27. Il a le mandat pour, il est là pour ça. Pareil pour toutes les prérogatives européennes en matière de concurrence, celles dont on parle souvent. Là, je dis pour la recherche, on est sur un domaine partagé, Union-État, mais c'est donc avec des caractéristiques fédérales. Et l'Union européenne, à différence d'organisations, elle sécrète son propre droit européen, hein, les fameuses directives, règlements qui font. Mais ce ne sont pas des monstres bureaucratiques, ce sont des lois européennes. Alors on ne les appelle pas lois, on les appelle directives, parce qu'on ne veut pas singer comme c'est sui generis, on ne reprend pas les termes qui sont ceux d'un État, ce n'est pas un État fédéral. Mais il n'empêche qu'elle a toute la légitimité démocratique, on pourra, si vous avez des questions, en reparler. Pour faire cela, c'est ce que je dirais, et ça pourrait faire tout un cours, mais je dirais expliquer dans la façon dont aujourd'hui fonctionne l'Union européenne. Pour la faire courte, une directive, elle n'est pas imposée par Bruxelles, elle est proposée par la Commission européenne qui elle-même a été investie par le Parlement européen après les élections européennes que vous connaissez, et ensuite elle est une directive, elle va être votée, débattue, amendée, votée par le Parlement européen et par les 27, qui comme une sorte de chambre haute et chambre basse, pour ensuite faire loi et être appliquée dans nos structures. Donc on retrouve bien, je dirais, ce qui a trait, on retrouve un peu de ce qu'on est habitué dans un État. Et donc on voit bien que c'est, on dit aussi que c'est infra-étatique et plutôt infra-étatique et en même temps supra-organisation internationale en quelque sorte. C'est cet entre-deux. Mais encore une fois, on ne veut pas non plus reprendre ou faire croire que c'est un État. C'est pour ça qu'un commissaire européen ne s'appelle pas ministre. C'est pour ça qu'une directive ne s'appelle pas une loi. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes journaliste et que vous couvrez les affaires européennes, vous devez toujours tout traduire parce que personne n'y comprend rien dans ce jargon européen. Mais il n'y a pas de capitale européenne, il n'y a pas de langue officielle, une langue officielle. Comme dit Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Jacques Delors a essayé d'inventer, lui, une expression pour essayer de qualifier l'Union européenne. Il a dit que c'est une fédération d'États-nations, qui est une sorte d'oxymore, qui a donné lieu à beaucoup de thèses aussi pour voir qu'est-ce que ça veut dire, cet objet curieux. Mais la question peut-être plus profonde que vous pourriez me demander, c'est finalement pourquoi les États européens accepte de se lier autant. Pourquoi est-ce qu'il joue ce jeu volontaire, ce qui est historiquement inédit? C'est pas comme être dominé par un empire ou être tout seul. On a identifié en fait quatre raisons d'adhésion. D'abord, et ça c'est peut-être la logique française, on peut adhérer dans une logique de projection, c'est-à-dire en fait retrouver la puissance perdue en se projetant au niveau européen. C'est-à-dire ce que De Gaulle disait très bien, il prenait la formule que vous connaissez bien ici du levier d'Archimède. Le levier d'Archimède, il dit que la France utilise l'Europe comme son levier d'Archimède. Voilà. Donc c'est une façon pour nous de faire ça avec peut-être la pente assez naturelle de vouloir que l'Europe soit une France en plus grand. Un peu le souvenir napoléonien où Rome, c'est la préfecture des Bouches du Tibre, Hambourg, c'est la préfecture des Bouches de l'Elbe, et c'est très bien qu'on quadrille comme ça l'Europe. Je dis ça avec amusement, mais c'est plutôt pour dire qu'on a parfois une tendance à vouloir que l'Europe, c'est très bien si on fait ce qu'on fait à l'échelle de l'Europe. D'autres logiques, qui est plus une logique au départ de celle de l'Allemagne, qui est une logique historiquement de rédemption, c'est-à-dire de rattrapage après la Seconde Guerre mondiale de ce qu'on a fait, de se racheter en quelque sorte en jouant le jeu de l'Europe. C'était aussi ce qui a été fait avec la réunification. On sait bien que ce qu'avait fait François Mitterrand, l'Allemagne se réunifie, mais dans le cadre aussi, elle abandonne le Deutschmark et on fait l'euro. Donc toujours une sorte d'amarrer la puissance allemande dans un cadre européen, donc dans une logique là, de rédemption. La troisième logique, c'est une logique d'optimisation, et puis la logique britannique, c'est-à-dire de coût avantage. Je vois ce qui est utile, je mesure bien mon effort, I want my money back, comme disait Thatcher, et je vois jusqu'où c'est intéressant pour moi d'y aller, jusqu'où je négocie des opt-out parce que là, ça ne m'intéresse pas, je suis vraiment dans une logique très calculatrice d'utilité. Ce qui, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, pendant la crise financière de 2008, il y avait l'Islande comme ça, qui s'était d'un coup déclarée candidate à venir, et puis qui a finalement recalculé son coût. Non, finalement, ce n'est pas intéressant, donc on retire notre candidature. Bon, voilà. Donc, on n'est pas dans une logique de projection ou de... Attention, c'est vraiment, ça m'intéresse, oui, non, mais pas en plus. Et puis, dernière logique, où je prends là encore une métaphore physique, logique de sublimation, lorsqu'on change d'un état à un autre. Et là, c'est plus, je dirais, la logique qui a prévalu avec les pays d'Europe centrale et orientale, c'est pour vraiment changer complètement d'état, une sorte de se développer avec l'Europe. Et lorsque vous, mais ce n'est pas vrai que seulement pour ces pays-là, lorsque j'ai pu me rendre, par exemple, en Irlande, au Portugal, vous dites, mais notre pays a été complètement transformé depuis qu'il est dans l'Union européenne. Nous, on le ressent moins en France parce qu'on n'a pas vu la cette progression, mais pour qui l'entrée de l'Union européenne a été une sorte de boost et donc de sublimation de changement d'État. Et c'est ça qui sont, je dirais, les grandes motivations sous-jacentes aux engagements européens des États membres. Mais je dirais, ça, c'était l'Europe bruxelloise et ce qui la motive. Il faut aussi comprendre le mot Europe, en fait, dans ce qu'il porte, en fait, sa part de rêve, sa part de projet. Il y a beaucoup d'expressions, vous vous dites, on dit souvent, on dit faire l'Europe, on dit il faut faire l'Europe. On ne dit pas il faut faire la France, on dit pas il faut la réformer, mais on ne dit pas il faut faire la France parce que la France existe. Alors que quand on dit il faut faire l'Europe, ça sous-entend comme si, en fait, elle n'existait pas, comme s'il fallait comme si vous ne l'avez pas rencontrée. Et donc, c'est aussi ce que sous-entend l'expression « construction européenne ». On est en train de construire l'Europe. Donc, au départ, je vous montrais l'Europe continentale et tout ce qui, historiquement, s'est fait. Mais là, on est dans une logique plutôt de l'Europe qui est quelque chose qui doit venir. Et ça, c'est vraiment ce qui a motivé les pères fondateurs de la construction européenne, Robert Schuman, Cédric Gasperi et d'autres, Jean Monnet, qui est au départ le projet de paix. Et j'ai cette... la photo, je dirais, que moi, en tout cas, j'ai vu quand j'étais à l'époque au collège, la fameuse photo que si vous deviez mettre, et je pense que c'est ce que peut-être ont vos enfants dans leur manuel scolaire aujourd'hui, si on veut dire qu'est-ce que c'est l'Union européenne, à quoi ça sert, pourquoi on l'a fait, on dit voilà, c'est ça, c'est pour la paix, c'est pour la réconciliation franco-allemande, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la réconciliation franco-allemande, elle a aussi, après, on fait l'Europe. Pour qu'il y ait aussi la réconciliation entre l'Allemagne et la Pologne, entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Ça a été fait sous les auspices de l'Union européenne. Et on ne peut pas rentrer dans l'Union européenne si on n'est pas en paix avec son voisin. La Slovénie et la Croatie ont dû se mettre d'accord pour aussi arriver à ce que la Croatie rentre dans l'Union européenne. Et ce sera, on sait bien, une grande question pour l'élargissement aux Balkans. La Serbie est candidate, on lui dit vous êtes candidat, mais il faut d'abord vous réconcilier avec le Kosovo, sinon vous ne pouvez pas rentrer. La seule exception qu'on a fait, avec Recas, c'est qu'on a accepté Chypre divisée. Et on s'est resté comme ça. Donc c'est un projet de paix. Et c'est un projet qui, pendant des décennies et des décennies, est très d'abord orienté sur lui-même, c'est-à-dire la paix entre nous. Et les instruments créés pour maintenir cette paix, je ne dis pas la paix au sens absence de guerre, ce qui est assuré par l'OTAN, mais la paix au sens de échanger entre nous, avoir une interdépendance économique entre nous organisée, avoir un droit qu'on respecte les uns les autres, le même droit, le droit européen. Et ça, si vous regardez les projets européens que j'ai cités au début, le marché intérieur, la monnaie unique, l'euro, ça, c'est des projets qui ont été construits pour assurer vraiment les piliers de cette paix et de prospérité entre nous. Et ça, c'est vraiment ce qui était le moteur idéologique, le récit dans lequel s'inscrit la construction européenne. Mais je dirais, depuis une petite décennie, en tout cas ces dernières années, on voit qu'il y a un peu le basculement historique que connaît le monde. Aujourd'hui, on ajoute à ce projet de paix un projet de puissance. L'idée que de dire que l'Europe,
On ne l'a fait pas seulement pour la paix entre nous, et on pense que l'Union européenne en tant que telle a reçu le prix Nobel de la paix, souvenez-vous, en 2012, et qu'on fait aujourd'hui l'Europe pour s'affirmer dans le monde, pour être une puissance qui compte dans un monde qui ne nous veut pas forcément du bien. J'ai pu faire un livre d'entretien avec le président de l'Institut de l'Or, qui s'appelle Enrico Letta, qu'on a intitulé « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Puisque si vous regardez vers... Alors, si on regarde à Moscou, actuellement, ça paraît très clair, mais quand on regarde ce qui s'est passé au 20e congrès du Parti communiste chinois à Pékin et la tournure que prend ce pays, lorsqu'on regarde la Turquie d'Erdogan, il semble que le trumpisme n'est peut-être en ce moment pas dans sa meilleure phase, mais voilà, on voit bien que, je pense aussi au Brésil de Bolsonaro, que l'Europe n'est pas forcément entourée de puissances qui partagent son modèle, qui partagent ses idées, qui partagent et du coup ses intérêts, et que l'Europe a été trop ouverte et a pensé qu'elle, c'est ce qu'on a souvent appelé l'Europe naïve, l'Europe à être sans stratégie géopolitique, son ouverture peut se retourner contre elle. Et sa vulnérabilité peut même être exploitée politiquement par d'autres. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, la vous savez, quand Mme Darien est venue près de la commission, elle a dit « je veux faire une commission géopolitique ». C'était la première fois que ce mot était prononcé à ce niveau-là. Et ce qui, pour moi, incarne aujourd'hui, s'il fallait mettre une photo peut-être de ce qu'on essaie de faire au niveau européen, ce qui a été d'ailleurs un peu rappelé lorsque Scholz est allé tout seul en Chine, de dire qu'aujourd'hui, être européen, c'est aussi peser face aux autres grands de ce monde, dans un monde multipolaire. Et par exemple, lorsque Xi Jinping vient en visite d'État en France, il est certes reçu à l'Élysée par le président de la République, mais avec à l'époque la chancelière allemande Merkel et avec le président de la Commission européenne pour lui dire en fait, si tu parles à moi, tu parles à nous. Et voilà comment on essaie de peser dans le monde actuel. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça peut affecter aussi la politique européenne de la recherche, et je terminerai par là. Aujourd'hui, le projet Horizon Europe dont je parlais, le Royaume-Uni en est exclu. Parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Et l'Union européenne a dit plus de l'Union européenne, plus d'Horizon Europe, alors qu'ils en étaient un grand bénéficiaire. Autant ils avaient l'impression de donner trop d'argent au budget et de partir. Là, c'était un des grands bénéficiaires du projet à l'époque Horizon 2020. Et donc aujourd'hui, ils veulent même faire un procès à l'Union européenne. Ils veulent à tout prix rentrer dedans parce que, bien sûr, ils n'ont pas les moyens de compenser cette perte financière. La Suisse aussi est exclue du programme. Parce qu'elle a cassé plusieurs accords avec projet, dont les sanctions européennes de la Russie aussi. Maintenant, la Russie ne peut plus candidater à ce programme. Donc, on voit bien que même la politique de recherche rentre aussi dans cette logique de dire on est dans un monde multipolaire et voilà, vous ne pouvez pas utiliser, venir chez nous, vous servir. Donc, en résumé, je voudrais dire que l'Europe, vous voyez bien que l'Europe de la recherche s'est construite très progressivement, mais aujourd'hui prend une certaine dimension et est devenue une politique majeure de l'Union européenne. Et être commissaire européen à la recherche, c'est gérer beaucoup de fonds, beaucoup être une personne puissante lorsque vous visitez des universités ou des labos pour cela à travers l'Europe. Mais c'est aussi devenu un sujet d'affirmation, de puissance et de rayonnement de l'Europe dans le monde pour que l'Europe rayonne dans un monde, encore une fois, de compétition et de multipolaire. Et c'est important aussi que l'Europe, grâce à ses projets, cultive l'esprit scientifique, qui est peut-être aussi une caractéristique, pas exclusive, mais bien sûr une caractéristique importante de notre continent. Et je conclurai en citant un intellectuel européen fédéraliste des Pays-Bas, Hendrik Brugman, qui définissait l'Europe comme le continent du doute. Du doute. Voilà.
Mais merci beaucoup, Sébastien, pour cet exposé. Je vais, avant de donner la parole et aux questions, j'en poserai de moi-même quelques-unes, mais je voudrais juste rappeler une petite anecdote personnelle. J'étais en 1989 à Washington, en voyage avec le ministre de la Recherche français de l'époque,
Curien,
et on était reçu par l'administration américaine à Washington. Et j'ai eu une conversation très intéressante avec un des fonctionnaires américains. En gros, alors on parlait de normes. Et puis, très vite, il m'a dit, vous savez, nous, on fera tout, mais tout pour vous, pour faire en sorte que vous n'arriviez pas à faire l'Europe. C'était très clair. L'Europe, enfin, je veux dire, les États-Unis, ou une grande partie des États-Unis, ont pour objectif de nous empêcher de faire l'Europe. Ça, c'est... Enfin, ça m'a été dit de façon extrêmement, extrêmement claire. Alors moi, j'ai, si vous permettez, une petite question. D'abord, est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe ira vers plus de fédéral, enfin, peut-être pas sur une constitution comme celle qui a été refusée en 2005, mais est-ce qu'il y aura une consolidation de la fédération? Première question. Et la deuxième question un peu provocante, est-ce que pour les 26 ou 27 qui restent, et oui, voilà, est-ce que le Brexit, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
Merci. Merci pour ces deux... Vous m'entendez toujours bien?
Oui. Ah oui, d'accord.
Merci pour ces deux excellentes questions. D'abord, est-ce que l'Europe va vers... est-ce qu'on se dirige vers ce qu'on a d'ailleurs parfois appelé les États-Unis d'Europe? Est-ce qu'on se dirige vers une fédération? Je ne crois pas. C'est vrai que dans le programme de coalition du gouvernement allemand au pouvoir sous Scholz, ils ont inscrit l'objectif d'un État fédéral européen. C'est la première fois d'ailleurs que c'était sur insistance des Verts d'inscrire l'horizon qu'on veut, c'est créer un État fédéral européen. Ce qui n'est pas du tout la vision française. Française est pour que l'Union européenne reste constituée d'États, mais qu'on n'aille pas vers un fédéralisme de type État fédéral. Et je pense que, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté OPNI, le côté sui generis de l'Union européenne, je pense qu'elle est, alors selon qu'on est plus ou moins fédéraliste, on trouve dommage ou pas, mais elle est en tout cas quelque sorte condamnée à rester cet objet hybride. Et en revanche, est-ce qu'elle va vers plus d'intégration? Je ne sais pas encore. Les crises successives la font toujours évoluer. On a eu une politique de santé qu'on a eu comme jamais, pendant le Covid. La crise de l'euro aussi l'a montré. En fait, le modèle, c'est ce que Jacques Delors appelle la différenciation intégrée, c'est-à-dire que l'Europe est appelée, on le voit, à s'élargir. On pourra peut-être parler d'élargissement, à s'élargir à 27. Mais on a aujourd'hui les pays des Balkans qui sont impatients plus que jamais de rentrer. On a l'Ukraine et la Moldavie dont on a reconnu la candidature. Et donc, on se prépare à une Europe plus large. Mais on sait bien que dans cette Europe élargie, on ne pourra pas tous être intégrés au même rythme. Et déjà aujourd'hui, l'euro, par exemple, est partagé par 19 pays. Il y en a le 20e qui va rentrer le 1er janvier sur la Croatie. Schengen aussi, tout le monde n'est pas dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'Europe à plusieurs vitesses. On peut être dans la même Union européenne, avec les deux fondamentaux qui sont avoir le même marché européen et avoir respecté la même charte européenne des droits fondamentaux, ce qui est important pour d'autres pays notamment. Mais après, je dirais, si certains veulent aller plus... que ce soit sur la question de la défense, sur la question migratoire, sur la question même de la recherche. On peut imaginer des intégrations plus poussées au sein de l'Union européenne, et si certains veulent créer une fédération, ce serait aller encore jusqu'au bout. Mais je pense que ce que vous décrivez, l'Union européenne gardera et garde à des caractéristiques fédérales. Le danger, et vous parlez des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, parfois, les États-Unis nous sommes de choisir d'être avec nous ou contre nous face à la Chine. On appelle le découplage. Est-ce qu'on veut se découpler technologiquement de la Chine? On ne veut plus que vous travaillez avec la Chine. Et que vous... Et l'Europe a une relation compliquée aussi avec la Chine, qu'elle décrit à la fois comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Rival systémique, ça veut dire quelqu'un qui développe un contre-modèle. Mais ne veut pas, pour autant, ne se situe pas à équidistance des États-Unis et de la Chine, puisqu'on est plus proche pour beaucoup d'égards des États-Unis, et puis il y a l'OTAN, mais on ne veut pas non plus se fondre complètement dans un Occident où finalement l'Union européenne ne serait que c'est la vision un peu ce que tu as toujours voulu prévenir de Gaulle. Donc il y a cette volonté, et c'est un peu le sens aussi de ce qu'a voulu essayer le président Macron avec la communauté politique européenne, c'est que le continent européen s'affirme en tant que tel. Donc ça, c'est le débat. Après, votre question sur le Brexit, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, je pense honnêtement, en tant qu'Européen, c'est une mauvaise nouvelle au sens où c'est comme une amputation d'un bras, c'est-à-dire que vous avez quand même un gros État membre, et quand on veut être puissant dans le monde, c'est sûr que ça fait quand même un... Avec tout le respect que je peux avoir pour des entre guillemets, petits pays, le Royaume-Uni, quand il part, ça se voit. C'est quand même un gros morceau qui part. Je parlais justement d'Horizon Europe, dont ils sont... on peut trouver aussi regrettable qu'ils ne soient plus dans nos programmes scientifiques. C'est quand même ils ont des atouts, des chercheurs. Et puis, donc ça peut nous rendre moins influents, le poids, du coup, est réduit. Mais, inversement, comme ils étaient, en tout cas quand ils étaient dedans, déjà ils étaient réussis à se tailler une place vraiment à part. J'ai trouvé que finalement la Suisse était presque plus intégrée qu'eux, puisque la Suisse est dans Schengen alors qu'ils n'y étaient pas. Ils n'ont pas voulu l'euro, ils n'ont pas voulu être dans les projets de défense. Enfin, vraiment, ils étaient déjà pas complètement dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup mis leur veto sur des tas de projets. Et je ne suis pas sûr, par exemple, lorsqu'on a fait le plan de relance européen à la suite de la crise du Covid pour ce plan qui notamment finance 40% du plan de relance en France, par transfert, hein, pas par prêt, on est à peu près sûr que, ou pour faire des achats communs de vaccins, pas sûr que les Britanniques auraient joué le jeu. Donc, quelque part, ça permet d'avancer plus, c'est vrai. Mais j'aurais du mal à me réjouir du Brexit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'a pas eu d'effet domino. On avait craint à l'époque... qu'il y avait des élections, je me rappelle, juste après aux Pays-Bas, on va voir, vous vous souvenez, en France, le Frexit était beaucoup dans la campagne 2017, alors que là, il était vraiment absent des débats lors de la présidentielle cette année. Donc, en fait, aujourd'hui, personne ne veut quitter l'Union européenne, beaucoup veulent la changer, mais personne ne veut la quitter. Et on voit bien, pour finir sur Brexit, à quel point c'est d'être tout seul, ça peut faire mal. Regardez Liz Truss. Lorsqu'elle veut faire un budget qui n'est pas financé, elle est attaquée. C'est quand même un comble d'ailleurs que les plus ultralibéraux soient attaqués par les marchés financiers. Enfin, mais c'est vrai que ça a montré que l'Italie, par exemple, qui a une dette importante, a l'euro comme bouclier et peut parfois, elle serait toute seule, pas sûr que sa dette serait aussi protégée. Donc il y a effectivement, personne ne veut quitter l'Union européenne, et au contraire, il y a des candidats.
En fait, l'Écosse voudrait revenir. Enfin, il y a des morceaux du Royaume-Uni qui voudraient revenir.
Alors, on verra ce qui se passe au référendum écossais l'année prochaine. Oui, c'est ça, c'est en octobre 2023. Mais effectivement, ça a divisé le pays. Un mot juste sur le Brexit, c'est que ça a divisé le pays politiquement. Et même au sein des Tories, ça a finalement toujours été divisé, alors que le but, c'était de les réunir au moins eux. Ça a divisé le pays géographiquement. On voit bien que, si on regarde la carte des Brexiteurs, entre Londres et les campagnes, et le Nord, et puis entre les nations qui composent le Royaume-Uni, entre les Anglais, les Gallois, les Écossais et les Nord-Irlandais, il y a eu des votes très différents. Et puis même une coupure générationnelle aussi, entre les jeunes qui sont beaucoup abstenus et qui, apparemment, étaient plutôt pour Remain, et plus âgé. Donc oui, c'est un pays qui est très divisé aujourd'hui et sur cette question qu'il a vraiment clivé, polarisé. C'était vraiment même apparemment un sujet qu'il ne fallait pas aborder au repas de famille.
Oui, moi je voudrais...
La même chose d'abord. Oui.
Pour les gens qui sont à distance, le micro va arriver. Voilà.
Bonsoir, alors merci pour la qualité de votre intervention et de votre conférence. J'avais une question, il avait été évoqué dans le débat public récemment un projet de création d'armée européenne de la défense. Est-ce que c'est un projet qui vous semble totalement ubuesque ou quelque chose de pragmatique et de réalisable dans le cadre géostratégique européen.
Alors, c'est une question. Vous savez qu'il y a eu un projet dès le début de créer une communauté européenne de la défense, la CED, qui est née en France et qui est après a été rejetée par la même France. La CED, les cédistes, les anti-cédistes, en 54. Le projet revient, c'est vrai, l'expression armée européenne qui a pu être employée, c'est plutôt aujourd'hui les visions d'avoir un pilier européen dans l'OTAN. L'OTAN est en train de s'élargir, accueillir, s'il y a un truc qu'il veut bien, la Finlande et la Suède. Et donc il y a de plus en plus d'États. Aujourd'hui, il y a trois États qui ne sont pas dans l'OTAN. L'État européen, c'est l'Autriche, l'Irlande et la. L'Autriche, l'Irlande, et excusez-moi, le troisième va me revenir, Malte. Donc, mais sinon, donc c'est vrai que ça se. Mais on sait bien, en même temps, l'OTAN, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ou du moins si combien de temps les Américains vont vouloir continuer à être présents. Aussi bien, on voit bien que la question chinoise est hante. Et donc, et l'OTAN n'a pas vocation d'aller, si la Chine envahissait Taïwan, d'aller là-bas. Donc, c'est vrai que si demain, je ne pense pas qu'on prenne le chemin, mais si mettons, Poutine voulait aller envahir un des pays baltes, là, on serait tenu de réagir, pas seulement d'ailleurs en cause de l'OTAN, mais parce que dans le traité européen, l'article 42.7 prévoit une assistance mutuelle. Donc, on se doit d'aller se battre pour aider les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire une question, si on fait rentrer l'Ukraine et les autres, c'est que la Moldavie, il faudra aussi aller se battre pour eux s'ils sont à nouveau attaqués. Donc il y a ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui une prise de conscience de qu'on manque effectivement de moyens pour se défendre. L'Allemagne, sitôt après l'invasion russe, a réengagé un budget de défense qui était, et avec un énorme retard à rattraper, parce que là aussi, il y a des objectifs. La France, aujourd'hui, se retrouve la première puissance de défense dans cette Union européenne et la seule puissance nucléaire. Mais les autres États européens n'ont pas forcément d'être toujours tous sous notre protection. Donc, oui, l'atlantisme reste fort, mais il y a maintenant... une, au sein de la Commission européenne, une direction générale à la défense. Il y a des projets communs d'armement qui ont du mal à décoller, parce que là aussi, lorsque les États aujourd'hui veulent se réarmer, ils vont tout de suite acheter américain, parce que c'est plus facile, c'est interopérable avec l'OTAN. Qu'est-ce qu'on veut dire en fait par avoir une armée européenne? Ça, c'est un peu, je dirais, le slogan. Mais pour avoir une défense européenne, il faut avoir une culture stratégique européenne commune. Or, aujourd'hui, autant face à la Russie, on arrive à peu près à être d'accord, par la Hongrie parfois qui fait des siennes, mais sinon on arrive à être unis face à une menace assez là, évidente. Mais dès qu'il s'agit justement de la Chine, dès qu'il s'agit d'autres menaces, lorsque vous êtes en Italie, vous n'avez pas la même relation bien sûr avec la Libye que si vous êtes en Finlande. Et donc, avoir une analyse commune de la menace, ça a donné un document qui a été adopté au mois de mars cette année, qui s'appelle la boussole stratégique, ou le strategic compass, c'est d'avoir en moins une même analyse européenne de ce qui nous menace. Parce que vous pouvez avoir une armée, mais si vous ne savez pas, il faut pouvoir vous voulez la projeter, ou est-ce que vous voulez la faire. En revanche, je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a quand même quelques opérations militaires européennes qui sont assurées par l'Union européenne par l'Union européenne pour compte de l'ONU. Par exemple, la protection, la surveillance de l'embargo des armes pour la Libye est assurée par l'Union européenne. En pratique, donc, ce sont des mises en commun de moyens. Mais c'est l'Union européenne qui a été confiée de surveiller qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes. D'ailleurs, ça nous a valu des histoires avec la Turquie qui voulait violer cet embargo. Par ailleurs, aussi notre détroit sur la piraterie, près du golfe d'Aden. Là aussi, c'est une mission européenne qui vient d'être renouvelée. Donc, on met des moyens. Et là aussi, c'est une coopération, on dirait, de volontaires. Il n'y a personne qui voulait le faire, mais c'est des choses qu'on met en commun.
suivante, ça va être Marie-Paul, mais brièvement.
Ou monsieur.
Mais soyez, pardonnez-moi, il faut peut-être que vous soyez un peu plus bref, d'accord, vous aussi, d'accord. dans la question et dans la réponse.
Oui, non, moi je voulais revenir sur les financements. Horizon Europe, c'est 95 milliards sur 5 ans ou...
Oui, sur de 2021 à 2027. Sur 6 ouais.
ans, 6 ans. Donc ça fait une vingtaine de milliards par an, en fait.
Oui.
Oui, ce qui est pas mal, mais l'ANR, ça, c'est à peu près 1 milliard. Enfin 800 millions, je ne sais pas, un truc comme ça. Le budget du Max Planck, ça doit être du même ordre. Est-ce que, finalement, à long terme, ça va avoir un sens de garder les programmes nationaux et un programme européen ?
Alors là, je répondrai effectivement brièvement parce que je me sens pas suffisamment expert pour bien projeter ce qui peut arriver. L'Espagne a pris cette tournure-là. L'Espagne a dit, bon, maintenant, il y a un programme européen, donc il n'y a plus besoin de faire un programme national, et peut-être que ça l'arrange budgétairement de ne pas avoir à faire ça, mais c'est effectivement... la difficulté, en fait, c'est pas tant que... je ne sais pas si l'Europe a vocation à tout financer au niveau européen, et je ne sais pas si on doit aller dans un sens que ça supprime l'échelon national. La difficulté, c'est qu'il n'y ait pas de redondance, et qu'il y ait pas, que ce soit complémentaire, et que ce ne soit pas, effectivement, parfois, ça devient concurrent. Parfois, l'Agence nationale de recherche, finalement, lance un appel d'offres sur un sujet quasiment comparable de ce que va faire Horizon Europe. Et donc là, effectivement, ce serait un peu la perte de financement d'arriver à des choses trop, trop comparables.
Si on laisse les deux systèmes exister, on a une situation qui n'est pas claire. Et on ne peut pas avoir une vision, par exemple, comparative avec ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je suis dans le domaine de la biologie. J'ai pu comparer plusieurs programmes de recherche entre l'Europe et les États-Unis. On ne fait pas le poids. Hein.
Alors, après, je parlais d'Horizon Europe comme le premier programme sur budget public. Qui est de cette envergure. Voilà. Mais après, effectivement, très souvent, lorsque, par exemple, le Conseil européen de la recherche refuse un projet, comme il était excellent, il y a d'autres financements qui sont trouvés, notamment des fondations privées qui vont le financer, même s'il n'a pas eu de financement européen. Mais je ne crois pas à une logique qui serait 100% européenne, parce qu'en plus, la France peut avoir elle-même parfois d'autres priorités qui ne sont pas forcément reprises au niveau européen. Encore une fois, la difficulté, c'est que ce soit qu'il y ait une bonne synergie, une bonne complémentarité et que ça ne rentre pas en contradiction.
Oui, juste pour revenir sur votre diapo sur les pays, le financement de l'Europe, je pense que vous n'avez pas tenu compte dans cette diapo, il n'est pas tenu compte de l'impact de chacun des pays vis-à-vis propre du financement propre de chacun des pays. Par exemple, l'Allemagne met énormément d'argent dans la recherche fondamentale et la Suède pareil. Et ça se reflète après au niveau européen où les ERC, par exemple, sont obtenus beaucoup plus facilement. Parce que chacun des États ne met pas les mêmes sommes au pot pour la recherche.
Oui.
Et d'autre part, pour vous dire, l'ERC, oui, c'est beaucoup, beaucoup moins de problèmes que même que les projets français. Je suis payée pour le savoir, c'est très, très bien.
D'accord, donc ça s'est simplifié. D'accord. Peut-être juste une réponse là-dessus, c'est que, en tout cas dans le projet avant Horizon 2020, la France était en troisième position des bénéficiaires du fonds, derrière l'Allemagne, derrière le Royaume-Uni, qui a bénéficié beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un rapport parlementaire dès qu'on ne proposait pas assez de dossiers. En fait, on avait d'excellents dossiers, ils étaient refusés, mais on n'en proposait pas assez. Une bonne partie est accaparée par le CNRS et le CEA, après, Mais après, pour les autres, il reste des miettes, quoi. Mais parce que parfois, ils ne savent pas du tout. En fait, ils ne connaissent pas l'existence du programme. Il y a aussi un problème de visibilité. Il faut savoir. Et il y a aussi, c'est apparemment, je crois aussi une question de discipline. Il y a des disciplines scientifiques qui sont plus habituées à aller chercher un financement européen que d'autres. Mais c'est vrai qu'on dit que la France ne propose pas assez de demandes proportionnellement à son poids dans le recherche et développement. Et donc, c'est vrai qu'il y a un encouragement aujourd'hui à aller demander ces financements européens et ne pas le faire, en fait, parce qu'on n'a pas eu le financement français. En fait, aller directement.
Il faut dire que notre gouvernement et notre président de la République ne croient pas à la recherche fondamentale. Alors, c'est un peu miroir.
Sur Chypre, oui. Vous avez mentionné que
Je voulais dire que Chypre est rentré en 2004 divisé. Donc, c'est vous savez que la République de Chypre du Nord, qui est occupée par la Turquie, n'est pas reconnue par nous, ça reste un dossier compliqué. Et il y avait, au départ, on s'était, mais je ne vais pas refaire l'histoire, on avait dit qu'il faudrait que ce pays rentre une fois qu'il s'est mis d'accord sur ses frontières et qu'elle ne soit pas contestée, que ce problème soit réglé. Alors, il n'est toujours pas réglé. Et donc, ça aurait fait une bonne pression, si vraiment il voulait rentrer, pour que ce problème soit résolu. Et c'est une question qui... C'est une question qui va d'ailleurs se poser pour, à terme pour si l'Ukraine veut rentrer. Il faudra être sûr que ses frontières sont bien claires et ne sont pas contestées et sont bien reconnues. Est-ce qu'on veut faire rentrer dans l'Union européenne un pays qui serait en partie, je pense à la Crimée par exemple, qui serait en partie occupé, alors que ce n'est pas reconnu par nous comme une occupation légale voilà, est-ce qu'on va donner des fonds européens à cette partie-là? Donc ça crée beaucoup d'histoires. Donc c'est souvent une vraie incitation aux pays candidats à dire. Il faut d'abord régler vos problèmes de frontières.
Oui, alors je vais être le porte-parole des internautes, mais j'avais une petite remarque quand même. Quand vous avez cité les budgets alloués à la recherche des trois grands blocs, effectivement, les États-Unis sont en tête, ensuite l'Europe, ensuite la Chine. Mais si on rapporte au nombre d'habitants, c'est un petit peu différent parce que on est à 644 pour les États-Unis, 440. Pour l'Europe, 440 pour la Chine, mais souvent il y a 1,5 milliard d'habitants. Ah
oui. Donc ça oui, absolument, comment on mesure. Oui,
c'est un peu différent, ça dépend comment on mesure les choses. Alors là, j'avais une remarque, une seule remarque des internautes, ils n'ont pas été très, très loquaces ce soir, c'est lorsque vous avez parlé des raisons pour lesquelles on est dans l'Europe, le pourquoi. Vous avez cité la logique de production.
Projection.
Voilà, oui, c'est ça. Et vous avez cité de Gaulle et le levier d'Archimède. Et là, il y a une réaction qui dit « Ah ben, il est cassé le levier ». Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette remarque. Rejoint peut-être...
Le levier est cassé.
Non, ah ben, il est cassé le levier. C'était la seule remarque que j'ai eue des internautes. Et ça renvoie un peu à cette idée de Europe ventre mou aussi, au sens où... Eh bien, elle semble incapable d'esquisser une vraie politique de défense globale. Et pour autant, elle a quand même aussi montré sa solidarité et sa capacité à agir d'une manière unitaire. On a bien vu dans le cas de l'Ukraine. Donc voilà, si vous pouvez répondre sur ce...
Il y a peut-être deux questions en fait, dans cette remarque. C'est-à-dire que si on dit que le levier est cassé... On peut dire que la France n'a plus d'influence dans l'Europe. Ça peut se comprendre comme la perte d'une influence française à Bruxelles, ce qui est un sujet qui est récurrent. Alors moi, depuis 20 ans que j'observe les questions européennes, j'ai vu effectivement des hauts et des bas dans notre capacité à influencer les idées. Les Britanniques ont pu être très influents, notamment sur la période Barroso. Mais si on était très influents quand Jacques Delors était à la Commission. Mais aujourd'hui, c'est revenu. L'idée... et ça a beaucoup été développé par Macron de souveraineté européenne, de dire que l'Europe, justement, doit ne pas être aussi ouverte à tous les investissements d'où qu'ils viennent et être un pur espace de libre-échange qui était quand même devenu la musique au moment du traité de Lisbonne et autre ça, de savoir protéger notre ouverture, a fait son chemin. Et ça répond à votre deuxième question. Lorsque aujourd'hui, je regarde les projets qui sont sur la table des législateurs européens, et c'est beaucoup de projets qui visent à davantage nous donner les moyens de
peser face aux autres. Par exemple, je vais donner deux exemples. Lorsque, une fois j'étais en Croatie, il y avait un immense ouvrage d'art fait sur fonds européens, le plus grand donc, pour construire un pont, confié, il y a eu un appel d'offres, c'est une entreprise chinoise qui l'a gagné, ce qui a été la moins chère. Aujourd'hui, on revient là-dessus, parce que d'une part, on veut, et c'est au niveau européen qu'on veut faire, on veut imposer la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics pour que les marchés publics européens soient ouverts aux entreprises chinoises si ils sont aussi ouverts au niveau chinois, ce qui n'était jusqu'à maintenant pas le cas. Et puis, de vérifier effectivement, d'avoir aussi un filtrage des investissements étrangers sur nos actifs stratégiques. Et c'est d'ailleurs tout le débat qu'il y a eu là quand il y a eu une prise de participation au capital d'entreprises chinoises dans le port de Hambourg sur un opérateur logistique. Enfin, jusqu'où, à quel point on laisse, est-ce qu'on veut laisser le port du Pirée et maintenant au moins des Chinois, voilà, est-ce que, jusqu'à quel point des actifs stratégiques qui font des infrastructures qui sont clés, nous sommes capables de le faire. C'est aujourd'hui toute la question qui se pose pour l'énergie, de faire des stockages en commun, d'avoir plus d'interconnexions, d'avoir des achats groupés pour effectivement mieux peser face aux autres et ne pas, surtout pas aller en ordre dispersé. Alors, c'était d'ailleurs toute la controverse du voyage solitaire de Scholz à Pékin, en disant mais pourquoi y aller maintenant, pourquoi y aller tout seul, alors qu'aujourd'hui justement c'est un peu et plusieurs de ces homologues lui ont dit mais c'est pas comme ça maintenant qu'il faut faire parce que justement le monde a changé. Donc c'est je pense que ce levier, en fait, il nous appartient qu'à nous de l'utiliser. Et on se rend compte parfois qu'on est plus fort qu'on ne le croit, au sens où le marché européen est quand même le plus grand marché du monde. C'est 450 millions, même après le Brexit, c'est 450 millions de consommateurs, c'est plus grand que le marché américain. C'est un marché incontournable pour les autres producteurs mondiaux qui veulent y accéder. Et donc, l'idée, c'est de se servir de ce marché européen, y compris ou de l'euro, comme un levier de puissance, et pas seulement pour la prospérité entre nous. Donc c'est ça l'état d'esprit aujourd'hui des différents projets qui sont sur la table. Par exemple, un des projets sur lesquels travaille Thierry Breton, c'est ce qu'on appelle faire une alliance européenne pour être capable nous-mêmes de faire nos propres semi-conducteurs, puisqu'on en importe beaucoup, et beaucoup sont faits à Taïwan. On se rend compte, devenir trop vulnérable si on est trop dépendant de nos fournisseurs, et surtout si on dépend d'un seul fournisseur ou autre. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain aussi, d'être une capacité industrielle de faire des semi-conducteurs de dernière technologie. Et puis, pareil aussi pour les médicaments. Pendant la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'on ne faisait plus un gramme de paracétamol en Chine et en Inde. Et donc, on veut aussi maintenant faire une alliance européenne pour faire des principes actifs des médicaments.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Merci. Eh bien, merci infiniment pour toute. C'est une excellente soirée grâce à vous et sur un sujet fondamental qui est quand même l'Europe. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Et n'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut Jacques Delors si vous voulez avoir nos publications, nos webinaires, les infographies que l'on fait sur ces questions, au-delà des questions scientifiques. Merci à vous.